C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait avancer la recherche dans ce domaine avec le radar. Les radars étaient alimentés par d'énormes générateurs à très haute fréquence. Or, pour obtenir des armes électromagnétiques efficaces, il faut qu'elles soient mobiles, donc que les générateurs le soient aussi. Tout ça a été résolu. Alors, tournons-nous vers la direction des systèmes de force et de la prospective à la Direction Générale pour l'Armement. François Debout, quelles sont les armes électromagnétiques qui sont opérationnelles aujourd'hui ?
On peut concevoir des armes portées par des missiles. Un missile, par exemple, de croisière peut arriver au-dessus d'un centre de communication ennemi, exploser au-dessus d'un centre de communication et détruire toutes les communications et que les systèmes de communication. Donc ça, c'est une arme très opérationnelle permettant de préparer complètement le terrain. On peut voir des analogies, par exemple, à ce qui s'est passé en Irak il y a une dizaine d'années. On pourrait concevoir ce genre d'utilisation d'armes aujourd'hui. Et ce type d'armes, je pense que certains pays ne sont pas loin de les avoir. On peut concevoir aussi des armes, je dirais, embarquées sur véhicules, sur camions. Alors là, ça peut être déjà des armes d'une certaine taille, capables de faire de la protection de zone, c'est-à-dire protéger un site par rapport à toute arrivée d'aéronef ou de missiles. Donc là, il faut déjà des armes plus complètes, avec des capacités de pointage, avec une capacité de répétitivité, c'est-à-dire de nombreux pulses, de nombreuses impulsions qui se répètent, avec éventuellement des agilités en fréquence pour pouvoir jouer sur les différentes capacités de couplage et de vulnérabilité de l'équipement. Donc ça, c'est aussi des concepts d'armes qui sont étudiés. On peut imaginer aussi alors, des choses beaucoup plus, je dirais, rudimentaires, plus simples. C'est des valises, à peu près, pour donner la dimension, qui permettent d'arrêter un véhicule à une distance relativement faible.
L'arrêter de quelle façon ?
L'arrêter en jouant sur son électronique. Il y a toujours maintenant de l'ABS, de la régulation électronique, bon, des postes radio, mais ça c'est moins grave, etc., à bord d'une voiture. Et ça c'est une vulnérabilité naturelle des voitures ou des véhicules. Si on bloque l'ABS et on bloque le freinage complètement, le véhicule n'avancera plus.
Ça, ce n'est pas très méchant, apparemment. Il s'agit de ce qu'on appelle les armes non létales, c'est-à-dire les armes qui ne tuent pas. Et dans ce domaine, M. Michel Hugon, les Américains sont très avancés.
Dans les années 2010, ils seraient prêts à disperser nos fourrures, qui amène une brûlure au niveau de la peau. Ça se présente donc, c'est comme sur une jeep, un peu. Et vous avez un grand panneau qui doit faire 1,20 m sur 1,20 m et qui serait censé être dirigé sur une foule, sur un leader d'une foule pour les dispersions de foule, et qui amène une brûlure au niveau de la peau, puisqu'au niveau millimétrique, ces ondes pénètrent de quelques millimètres et donc ne laissent que la peau normalement.
Donc c'est au niveau des manipulations des masses, des
voilà,
des opérations de maintien de l'ordre.
Plus dans ce, mais enfin, bon, je sais pas quelles sont les intentions des Américains. Hein,
ouais. En 1960, une expérience avec un boîtier récepteur fixé sur un taureau. Alors ça nous ramène 42 ans en arrière quand même. Mm-hmm. Quand celui-ci chargeait, donc le taureau, on appuyait sur une télécommande et la bête s'écroulait. Alors, on peut imaginer, à moi qui ne suis vraiment pas spécialiste, que si on arrive avec l'électroencéphalogramme à capter les ondes du cerveau, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de référencer les ondes que l'on capte et les utiliser à l'inverse avec les émetteurs ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est envisageable ?
Intellectuellement, oui, c'est faisable. Enfin, je pense que c'est une anecdote. Mais c'est certain que les rayonnements électromagnétiques ont une interaction avec au niveau des neurones, au niveau des courants qui passent à l'intérieur de notre cerveau. L'électroencéphalogramme, effectivement, pourquoi pas détecter une fréquence et à partir de cette fréquence la manipuler, la mettre en résonance.
Information. Un téléx de l'AFP et un journal suédois très sérieux de janvier 1998 rapporte que les militaires suédois testent actuellement une nouvelle arme capable de générer une impulsion d'une puissance de 10 gigawatts, ce qui correspond à plusieurs réactions nucléaires. Avec cette arme, n'importe quel avion, n'importe quelle fusée, n'importe quel missile devient vulnérable. L'arme a d'ailleurs été achetée par les Australiens qui en ont équipé des missiles de croisière. On estime qu'une telle arme existe depuis 1980. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on travaille à l'armement pour une guerre propre. Daniel Depris.
Les Soviétiques ont mis le paquet. Hein. À la fin des années 70, début 80, vous aviez 21 instituts d'État qui travaillaient uniquement sur ces problèmes-là, donc qui cerçaient les fréquences, les types de modulation qui pouvaient produire tel ou tel effet pour paralyser, pour tuer, etc. Et donc, grosso modo, dans le courant des années 80, on avait les trois paramètres étaient réunis, au niveau des Soviétiques en tout cas, d'autant qu'ils avaient mis au point, dans les années 70, un type de tube encore beaucoup plus puissant que le magnétron, qui est le gyrotron. Et donc, le gyrotron, plus les vénérateurs électriques mobiles disponibles, plus les résultats de leurs essais sur les effets biologiques des rayonnements, bon, ben, on était arrivé là à une arme qui soit tactiquement utile, en quelque sorte, entre guillemets, et même à un modèle portable qui avait été développé pour les besoins du KGB et qui tenait dans une valise.